Nous allons prier le Seigneur afin de disposer bien notre cœur à l'écoute d'une parole de Dieu au cœur de l'été. Il y a encore un mois d'été, vous le savez. C'est pas parce que les enfants vont reprendre l'école que l'été est fini, quand même. Nous allons prier donc notre Seigneur. Car j'aimerais vous parler, Seigneur, laisse-moi tenir ta main. Et les temps que nous vivons nous invitent à vraiment rechercher le Seigneur. Il est temps de rechercher Dieu, disait le prophète Ésaïe. Je prie avec vous. Tiens notre cœur en alarme devant tous les événements qui surgissent pour que nous conservions jusqu'à la fin la foi, l'espérance et la charité. Oui, nous voulons entendre ta parole qui nous donne la persévérance, l'espérance, ta parole qui nous permet de relever la tête quand les choses de la terre s'obscurcissent, vont mal. Dans le ciel, nous avons nos racines, un Dieu qui ne bouge pas, un Dieu qui est toujours le même, toujours aussi amour et patient. Nous voulons prendre racine en toi, Seigneur. Bénis cette méditation de ta parole, cette réflexion que nous voulons vivre ensemble par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite, chers amis, frères et sœurs, à ouvrir la Bible ou à écouter le texte de l'Évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 11, un texte bien connu qui est d'un grand réconfort puisqu'il s'agit d'une impossibilité qui est devenue possibilité. La plus grande impossibilité, c'est de donner la vie aux morts. Voilà que c'est arrivé parce que le Christ a tout pouvoir. Je fais la lecture, Luc 7, verset 11. Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, pas très loin de Nazareth. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Nous arrêtons la lecture ici. Amen. Parce que après, on imagine la fête, la joie, le bonheur indescriptible. Jésus a fait quelques guérisons spectaculaires, mais surtout quelques résurrections dans le but de nous montrer que la mort n'est pas la fin de tout, et dans le but de nous montrer que dans les plus grandes impossibilités, lui reste le maître. Voilà. Mais avant d'en arriver à la méditation sur le jeune homme de Naïn, qui était peut-être un petit garçon, la veuve, vous ne voyez pas une veuve très âgée, habillée en noir, avec un chapeau noir, un fichu noir, des robes noires. Peut-être qu'il s'agit d'une jeune femme qui a peut-être 28 ans, 29 ans, on ne sait pas. Mais avant de parler de cela, je voudrais vous dire à quel point nous sommes en alerte devant la Russie qui prépare la guerre, vous le savez. On ne sait pas si c'est un jeu diplomatique, on ne sait pas si c'est pour nous faire peur et pour nous faire entrer dans certains jeux. Bon, ça me dépasse tout ça. Mais la chose est absolument certaine, la Russie se prépare à faire la guerre. Et elle a l'armement nucléaire. Vous le savez bien, le Proche-Orient, le Moyen-Orient sont au bord du gouffre. Tout peut exploser, tout peut détruire cette grande et belle région du monde. Vous ne l'ignorez pas non plus, il y a des pestes, l'Ebola, et puis des famines, le réchauffement climatique. Je regardais une émission l'autre jour sur l'Amazonie, et l'Amazonie, qui représente les deux tiers des forêts du monde, est en péril. Qu'allons-nous respirer? Qu'allons-nous, comment allons-nous vivre? Et on se pose une question, on me l'a posée, devant ces grands phénomènes. Dieu existe-t-il? Que fait Dieu? Où est-il? Pourtant, sans parler même de Dieu, il faut reconnaître que nous sommes travaillés à l'intérieur de nous par une force de la nature, je dirais, qui nous porte toujours en avant, qui nous accroche à la vie. C'est l'espérance. C'est plus fort que nous, hein. Bien sûr, on ne dit pas que tout va réussir, mais on se bat, on s'accroche, on s'agrippe aux choses de la vie parce que l'espérance nous tient, c'est la dernière lampe qui s'éteint en nous. Un peu comme la fourmilière. On met un coup de pied dans la fourmilière elle se remet en place. Vous mettez un coup de balai dans la toile d'araignée, l'araignée, elle refait tout. Et c'est beau, et c'est magnifique. Eh bien, comme la fourmilière, on reconstruit toujours. On se bat, on s'adapte, on continue, on espère. L'espérance est quand même une qualité de Dieu qui est en chacun de nous. On se bat pour la santé, on se bat pour les enfants, on se bat pour le travail, on continue, on ne s'arrête pas. Des gens s'arrêtent, c'est vrai, mais la plupart continuent. Je lisais l'autre jour une page dans le journal sur Varsovie. On va fêter la libération de Paris demain. Bon, il y a eu quand même quelques difficultés, ça n'a pas été facile, mais l'article disait « Pensez à Varsovie, à côté de Paris. Paris n'est pas tombé, n'a pas été rasé. C'était prêt à être rasé, vous savez l'histoire. Mais Varsovie, elle, a été complètement détruite, il restait quasiment plus pierre sur pierre. 200 000 morts dans Varsovie. Et puis Varsovie s'est reconstruite. Très belle. Mais on ne reconstruit pas les 200 000 personnes blessées, brisées, cassées, tuées. Alors devant tout cela, on se dit, la vie mène nulle part. À quoi ça sert? Il n'y a plus rien, on ne sait pas où l'on va. Où des gens disent c'est comme ça parce que c'est comme ça. Puis d'autres gens disent, mais enfin, il y a peut-être un sens à la vie. Il y a peut-être une signification que Dieu nous aurait donnée, qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas entendu. On ne nous l'a pas dite. Une signification au départ de la vie, il y a quand même une raison. Ou à la fin de la vie, il y a une raison. On va où après la fin de la vie? Il y a un mot que j'aime beaucoup, et c'est un mot, on ne l'emploie pas beaucoup dans le domaine religieux, c'est le mot apothéose. Apothéose, ça veut dire le bouquet final, quoi. Hein ? Et apothéose, ça signifie exactement transformer en Dieu. L'apothéose de la vie, à la fin de la vie, nous serons transformés en Dieu. Oui, ou alors ça mène nulle part, ça n'a pas de sens. Alors il y a un sens qu'il faut chercher, qu'il faut trouver, parce que c'est important, on ne vit pas longtemps, la vie se raccourcit de plus en plus, malgré la longévité de certains. Mais on peut penser que s'il y a un Dieu, il doit chercher. Je parle comme un athée, là. S'il y a un Dieu, il doit chercher à entrer en relation avec nous. Pas possible autrement. Qu'il ait tout fait si bien, dans la perfection, des animaux, des plantes, tout ça, pour l'être humain. Il a tout fait pour l'être humain. Et s'il existe, il doit chercher à être en conversation avec nous. Parce que l'homme, seul sur la terre, a la capacité de parler à Dieu, d'écouter Dieu, d'aimer Dieu, de converser avec Dieu. Je pense que Dieu cherche à discuter avec nous, à parler avec nous. On a dit, bien sûr, mais c'est bien gentil, mais quelle preuve avez-vous de Dieu? Avez-vous une preuve de Dieu? J'ai une preuve, mais je ne peux pas vous la dire, parce que je ne sais pas vous la dire, parce que c'est une preuve, c'est une conviction profonde intérieure. Et ça, ça ne peut pas se transmettre. Je vous la dis, mais je ne peux pas vous la donner. Mais ça ne nous suffit pas. Quelle preuve avez-vous? Je vais plutôt vous dire comment savoir qu'il y a un Dieu. Bien, pour savoir plutôt qu'il n'y a pas de Dieu. Qu'il n'y a pas de Dieu. Comment faire? Il faudrait explorer tout l'univers pour être sûr qu'il est nulle part. Le fond des mers, le fond de la terre, il faudrait explorer le fond des étoiles, le fond du soleil, et puis aller pendant, faire un voyage de 500 milliards d'années pour aller au bout de l'univers pour dire, bon là, il n'est pas là, bon, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il est nulle part, là, donc, il n'y a pas de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez une petite île dans l'océan Arctique. Il n'y a pas d'arbres sur l'île, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitants, et on se dit, est-ce que sur l'île, est-ce qu'il y a la vie? Eh bien, pour être sûr qu'il n'y a pas la vie, il faudrait tout observer au microscope, toute l'eau, toute la terre. Parce qu'il y a peut-être un tout petit morceau qui dit il y a la vie. Parce qu'une preuve de vie, c'est quoi? Ben, c'est une petite herbe, c'est une petite fleur, c'est une trace de lapin, c'est presque rien. Mais si je vois une trace de lapin, je dis, il y a de la vie ici, c'est sûr. Si je vois une petite fleur, je dis, il y a de la vie. Pas beaucoup peut-être, mais il y a de la vie. Et c'est pareil pour Dieu. Si je vois une trace de Dieu, ça me suffit pour me dire, Dieu existe. La plus petite trace de Dieu me convainc que Dieu existe. Et des traces de Dieu, nous en avons vu dans notre vie. Et s'il existe, puisqu'il existe, il ne va pas rester anonyme, caché dans son appartement. Il va vouloir avec nous une relation, un contact, une conversation. Parce qu'il a créé l'homme avec des facultés étonnantes de relation. L'homme est sensible, il réfléchit, il peut aimer, il peut parler, il peut écouter. L'homme a des capacités, mais formidable, plus que le ver de terre, par exemple. Il a des capacités d'entrer en relation avec Dieu. Dieu nous a fait comme cela. Et Dieu, on le voit bien, n'est pas une machine à faire des comètes. C'est quand même un Dieu qui met de la variété, qui met de la couleur, qui met du chant, qui met de la beauté, qui met de la joie sur la terre. Dieu doit donc, je parle comme un athée, hein, Dieu doit donc être une personne vivante, pleine d'imagination, qui veut communiquer avec nous, parce qu'il parle aussi, qui écoute nos paroles, qui écoute nos chagrins, qui écoute nos soupirs, qui connaît notre pensée, qui sait tout, rien n'est caché devant lui, même la plus petite pensée, le petit cri de désespoir le soir après la télé, quand il est très tard et qu'on est fatigué, on a des cris de désespoir le soir, surtout l'hiver, Dieu les entend. Dieu nous a créés comme êtres d'intelligence, d'êtres de raison, et Dieu ne nous laisse pas jouer à Colin-Maillard. Vous vous rappelez quand vous jouez à Colin-Maillard? Le bandeau sur la tête, sur les yeux, on cherchait partout. Dieu ne nous laisse pas jouer à Colin-Maillard. Dieu ne nous dit pas, je parle comme le prophète Ésaïe, cherchez-moi et vous ne me trouverez jamais. Il nous dit, cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Prophète Jérémie, oui, Dieu a parlé. Dieu s'est montré. Dieu s'est révélé. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Mais Dieu est discret. Il ne vous oblige pas, il n'oblige personne à croire en lui. C'est pourquoi je parlais un peu comme quelqu'un qui cherche en disant, si Dieu existe, il n'oblige pas. Vous savez comment Dieu a fait le monde? Ben, je ne sais pas. J'étais pas là. Il a fait le monde sans témoin. Adam n'était pas là. Il a créé le monde, il a créé les astres, il a créé les plantes, la mer, les animaux. Et en dernier, il a créé l'homme. L'homme n'était pas là devant le spectacle majestueux de la création du monde, qui a mis du temps, c'est vrai. Même quand Ève a été créée à partir d'Adam, Adam, vous savez ce qu'il faisait ? Il dormait. Il n'a pas vu la venue, la création de sa femme. Une femme qui accouche, elle voit l'accouchement. Maintenant, un peu moins avec la péridurale, mais on voit l'accouchement. Et l'être humain n'a pas vu la venue de sa femme, n'a pas vu la venue de la création du monde, ce qui veut dire même la résurrection de Jésus. Qui a vu la résurrection de Jésus ? Personne. Tout le monde dormait. Ce qui nous montre la modestie de Dieu, l'humilité de Dieu, ce qui nous montre qu'il n'y a pas d'obligation à croire. Il n'y a pas de dictature. Dieu se montrerait, nous serions tous des croyants. Dieu veut que nous venions à lui par amour et non pas par la frousse. Mais quand on a cette liberté de croire ou de ne pas croire, c'est magnifique, mais il y a peut-être un petit risque. C'est que l'on perde la notice d'emploi. Ça vous est jamais arrivé ? Parfois, on achète un meuble, il y a une notice d'emploi, on l'a perdu, on ne sait plus monter le meuble. C'est compliqué, les meubles qui se montent tout seuls et qui ne se montent jamais tout seuls, finalement. C'est qu'on a perdu la notice d'emploi de la vie, de l'amour. On ne sait plus aimer, on ne sait plus dire bonjour, on ne sait plus remercier. Et on a perdu la notice d'emploi aussi sur le mal et sur les conséquences du mal. Les conséquences du mal. Aujourd'hui, t'es pas pris, t'es bon. Ça va. Mais le mal a des conséquences, que l'on soit pris ou pas pris. Dieu disait, le jour où tu mangeras de l'arbre défendu, tu mourras. Quand on meurt, ça veut dire que tu n'entendras plus, tu ne verras plus, tu seras dans un brouillard, ton intelligence va s'obscurcir, tu vas même plus ressentir la présence de ta mère, la présence de ton père, la présence du bien, du mal. Tu vas être obscurci. Car c'est Dieu qui régule la vie. Sinon, on va dans les excès de boissons, de drogues, de haine, de colère, de vengeance. C'est Dieu qui éclaire l'intelligence. C'est Dieu qui nous rend humains. C'est Dieu qui nous rend humains, pas seulement parce qu'on a deux bras, deux jambes, une tête, mais parce qu'on a un cœur qui lui ressemble. C'est Dieu qui nous rend humains. Sans Dieu, on se déshumanise. Sans Dieu, on se prive d'avenir. Sans Dieu, on se prive du projet de Dieu. C'est vraiment l'une des plus grands, c'est le plus grand suicide qu'on puisse faire. Se priver de Dieu, c'est se priver de vie. La conséquence de nos actes. Quand j'étais enfant, j'habitais auprès d'une rivière en Normandie. Et un de nos plaisirs d'enfant, c'était de faire avec sur l'eau des ricochets avec les petits cailloux plats. Fallait en faire le plus possible, évidemment, pas un, ça n'a pas de sens, mais plusieurs. Mais même un ricochet seulement, toc, la pierre qui tombe dans l'eau, on remarquait les petites vagues qui grandissaient, et on ne pouvait pas les arrêter, ces petites vagues. Elles prenaient 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Une seule pierre a des conséquences, une seule pierre jetée a des conséquences, une seule pierre dans votre cœur a des conséquences. Oui, tout a des conséquences. Nous avons réchauffé la planète. Seigneur, laisse-moi prendre ta main aujourd'hui. On a réchauffé la planète très bien pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça ne va pas s'arrêter. Je lisais le compte-rendu d'un sommet sur le climat, le réchauffement planétaire. Ça ne va plus s'arrêter maintenant. C'est fini. La seule chose qu'il faut se dire, comment on va pouvoir vivre, comment on va s'organiser pour vivre sur une planète qui va se surchauffer. Comment on va s'adapter. Voyez-vous, cette pierre-là, elle m'a toujours fait penser à nos erreurs, à nos péchés secrets. Plouf, elle tombe, on ne la voit plus, elle disparaît, elle est au fond de l'eau, au fond de la rivière. Mais les petites vagues n'arrêtent pas. Et je me dis, parfois, dans notre existence, eh bien, nous faisons des erreurs, nous faisons des mauvais aiguillages, on fait des mauvais mariages même, on fait des mauvais choix, des mauvaises relations. Et puis, il y a des vagues, et puis on ne peut plus s'arrêter, puis rien ne peut changer, parce que ce que nous semons, nous le récoltons. C'est Jésus qui l'a dit. Ça aurait pu être le paysan du coin qui l'aurait dit. Hein. Ce que nous semons, nous le récoltons. Vous connaissez l'histoire de l'apprenti sorcier ? L'apprenti sorcier, c'est un... On a vu le dessin animé, mais enfin, c'est une autre histoire et une musique magnifique. Cet apprenti qui va un jour, pour avoir une petite économie, un petit peu par paresse évidemment, il n'était pas très courageux, il a dit « je vais essayer de mettre mon balai en mouvement pour que mon balai ait cherché de l'eau et moi je vais rester forcément couché ou je vais regarder la télé ». Et le balai, il a bien répondu, c'est une histoire bien sûr, il a été chercher de l'eau, 2 seaux, 3 seaux, 4 seaux, et puis l'apprenti sorcier, il a commencé à dire « bon maintenant ça suffit, on a assez d'eau ». Mais ça marchait pas, le petit balai continuait à ramener de l'eau, « c'est fini, stop, la maison est pleine », il continuait. L'histoire, bien sûr, c'est un conte, mais ça nous montre qu'aujourd'hui, on ne peut plus arrêter les conséquences de nos fautes, de nos erreurs. Le réchauffement climatique, Seigneur, laisse-moi garder ta main, parce que les glaces vont disparaître dans 16 ans, 15 ans, 16 ans, 2030, c'est tout près 2030, c'est demain 2030. Les glaces vont disparaître dans l'Arctique. Jamais on a vu ça. Depuis l'époque glaciaire. Mais c'est grave parce que le niveau de la mer va monter. Et va faire disparaître des pays, des régions entières en France aussi, va inonder toutes les grandes villes qui sont au bord des mers. C'est grave, parce que cette masse de glace du Groenland, qui est de l'eau douce, elle va fondre, et elle va se mélanger avec l'eau salée, et ça va perturber le Gulf Stream, le courant chaud qui réchauffe nos côtes. Ce qui fait qu'on n'a pas un climat trop mauvais, même si vous vous en plaignez du climat. Mais enfin, il ne faut pas se plaindre. Et grâce à ce courant chaud qui passe au large de la Bretagne là, et dans l'Atlantique, eh bien, ce courant va être perturbé. Et d'après les scientifiques, eh bien, il va y avoir des inondations, des cyclones et un refroidissement. Il y aura un réchauffement et un refroidissement en France et dans une partie de l'Europe. On ne pourra plus cultiver. Je me dis, mais... Enfin, je m'arrête de parler ainsi, n'est-ce pas ? Je vais m'arrêter. Mais pour vous montrer que un fait peut avoir des conséquences en chaîne. Un homme qui plante un arbre auprès de sa maison, magnifique arbre, qui monte, qui va durer peut-être 3 siècles, et dans 3 siècles, peut-être qu'il va tomber sur la maison par un grand soir d'orage. Il tombera sur la maison et peut-être qu'il va blesser ou tuer les habitants qui sont les arrière-arrière-petits-enfants. On ne voit pas les conséquences. Et l'homme qui l'a planté, il était un brave, c'était un homme tout simple, il dit « je vais planter un arbre ». Mais si on lui avait dit « bien dans 400 ans, il va tuer ta famille », il n'aurait pas planté l'arbre. Mais on ne connaît pas les conséquences de tous nos actes. Qu'a dit Jésus ? Il y aura de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire au bruit des flots. Évangile de Luc, chapitre 21. On ne saura pas quoi faire au bruit de l'eau. Ce texte nous parle très fort aujourd'hui. Ce texte, c'est l'actualité, et c'est l'actualité de demain surtout. Déjà, des îles ont disparu dans le Pacifique. Alors, dans nos péchés d'égoïsme, nos péchés d'insouciance, tous ces péchés-là, parce que ce sont des péchés, de vouloir réchauffer la planète pour avoir plus d'argent, ça a ouvert les portes au mal. Nous avons ouvert les portes au mal, à la détresse, à la désolation, les inondations, etc. Pour nous, pour les autres, pour Dieu. Tout acte mauvais a des conséquences sur Dieu. Parce qu'on blesse le cœur de Dieu quand un enfant souffre de faim, parce qu'on a été trop égoïste dans le monde, on a laissé faire, parfois on a même prévu des famines. alors c'est un acte criminel, mais ça blesse le cœur de Dieu, ça blesse des parents, des hommes, des femmes, ça blesse chacun. Voyez dans quelle situation on est. Alors Seigneur, laisse-moi garder ta main. Serre-moi fort ta main dans les temps que nous vivons, dans les temps de grandes eaux, il faut traverser des temps difficiles. Je pense à l'apôtre Pierre qui marchait sur l'eau quand Jésus lui a dit « Viens !» Il marche sur l'eau et il coule à pic comme une pierre, l'apôtre Pierre, et il crie « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus le prend par la main et le relève. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il est temps d'appeler Dieu au secours et de rechercher le Christ qui a le pouvoir sur toute chose dans le ciel et sur la terre. Amen. Il est temps de rechercher le Christ qui peut maîtriser toutes les forces mauvaises, le Christ qui a les ressources pour nous donner la capacité de traverser la vie. Dans les tempêtes et les détresses que nous allons vivre, le Seigneur n'offre pas de l'argent, il n'offre pas de formule magique, il offre un don de paix, une paix que l'intelligence ne peut pas produire. On a beau raisonner, on a beau se dire, bon, il faut prendre sur soi, il ne faut pas trop s'en faire. Mais ça, non, la paix que le Christ donne dépasse le raisonnement de l'intelligence. On a besoin de cette paix, hein, parce que la vie semble partir en lambeaux aujourd'hui. Le lien familial, le lien social, tout partout, partout, partout ça va mal. Partout où je vais, les gens me disent, on ne reconnaît plus le monde. On est déçus. Je voudrais leur dire, on est déçus parce que nous nous sommes appuyés sur des dieux, des dieux au pluriel, dieux de la technologie, dieux du divertissement, dieux du plaisir, dieux de l'argent. Et tous ces dieux-là nous ont piqué la main, nous ont fait du mal. Comme dit le prophète Ésaïe, on s'appuie sur une muraille, il y a un serpent dans la muraille qui nous mord. On s'est appuyé sur la technologie, et voilà le chômage. On s'appuie sur l'argent, et voilà maintenant l'exclusion, l'égoïsme. On s'appuie sur des murailles qui cachent des serpents. Seigneur, laisse-moi garder ta main. Amen. Pour retrouver le Seigneur. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez qu'il y a quelques années en arrière, il y avait en Allemagne un mur, un grand mur, qui coupait une frontière, qui coupait l'Allemagne en deux. Le mur de Berlin. Et ça a duré des dizaines d'années. Je l'ai vu.